Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Plusieurs témoins m'ont dit qu'il a foncé volontairement sur la foule.
Une voiture folle qui fonce dans la foule en plein carnaval, des dizaines de blessés, notamment des enfants. Ça se passe en Allemagne, dans la même région que les fusillades de la semaine dernière.
Il faut que l'ensemble des agents qui travaillent à la mairie de Paris d'abord soient préparés et formés de façon
à ne pas... Ils le sont ?
À mon avis, ils ne le sont pas aujourd'hui.
Vous venez d'entendre les accusations d'Agnès Buzyn. Paris est-elle prête à faire face à l'épidémie de coronavirus ? L'équipe d'Anne Hidalgo répond ce soir. Je passe le coup de fil du 18h à son premier adjoint Emmanuel Grégoire. Le virus aux portes de la France, Europe 1 en Italie ce soir, au cœur d'une ville confinée.
D'habitude, on voit ça dans les films. Mais là, c'est vraiment dingue de voir Codogno dans une telle atmosphère.
L'actualité ce soir, c'est aussi Harvey Weinstein, jugé coupable d'agression sexuelle et de viol après un mois de procès à New York. Et puis l'actrice Adèle Haenel fait monter la pression à quelques jours des Césars. Récompensée, Polanski, dit-elle, se serait craché au visage de toutes les victimes. La Bourse de Paris décroche de 3,94% à 5 791 points. Plongeon généralisé sur les bourses mondiales en raison des inquiétudes liées au coronavirus. Anissa, la tendance météo ?
Alors pour demain, c'est une nouvelle perturbation qui arrive dans les prochaines heures. Donc elle va toucher le nord de la France dans la nuit. Et demain, le programme, c'est gris, humide et venteux pour presque tout le monde. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Nathalie, c'est
et
à
on
vous.
Se retrouve... On se retrouve en effet Sébastien Anissa parce que je voudrais simplement qu'on vous propose un petit point d'étape là pour démarrer, se mettre en situation. On va donc parler pendant 2 heures à Mourinx, ville périphérique des Pyrénées-Atlantiques, comme il y en a d'ailleurs des milliers en France, de la grande sociale, je vous le disais, un an après les gilets jaunes, de mobilité, bien sûr, d'emploi. Ici encore hier, le bassin de Lac faisait vivre 60% de la commune. Aujourd'hui, l'activité industrielle est en chute libre. Stéphane Place est avec nous, notre correspondant dans le sud-ouest. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Nathalie.
Vous avez fait le déplacement,
tous.
Vous êtes là précisément. Alors dans la ville, il y a cette école de la seconde chance, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle s'est installée ici, c'est un modèle d'ailleurs que l'on retrouve dans une soixantaine de villes en France. Vous êtes allé à la rencontre de certains jeunes, notamment José, 24 ans, qui en est sorti de cette école il y a quelques semaines.
Oui, ce jeune père de famille enchaînait les missions d'intérim dans le bâtiment, une précarité et des conditions de travail parfois dures, d'où cette réorientation réussie grâce à l'école de la deuxième chance qui, ici à Mourinx, accueille des jeunes sans diplôme ni qualification, ce qui a permis à José de trouver un CDI dans un supermarché qui se trouve à 5 minutes d'ici.
On faisait un peu de remise à niveau, après on cherchait un peu les stages, tout ça, parce que le bâtiment, j'en ai un peu marre. Moi, ils m'ont aidé parce que de mon côté, avant que je rencontre cette école, j'ai essayé de chercher de mon côté pour travailler dans la vente. Donc j'ai amené des CV un peu dans des enseignes de magasins. Mais ils me disaient, on vous rappelle. Ils me rappelaient jamais, parce que dans mon CV, j'ai que du bâtiment. Et après, avec cette école, ouais, on a refait le CV, ils m'ont aidé à chercher un peu les stages, tout ça. Et là, j'ai été, je leur ai dit, je suis allé à l'école de la deuxième chance à Mourinx, j'ai un suivi, tout ça, ils m'ont pris. Sans eux, je ne sais pas si actuellement je serais là en CDI, je pense que je serais encore dans le bâtiment.
José, aujourd'hui vous êtes jeune père de famille, vous avez un CDI, est-ce que vous voyez votre avenir à Mourinx ?
Non, j'aimerais bien bouger, ouais, même avec ma femme, tout ça, on est en train de voir pour si on ne peut pas déménager, ouais, dans une grande ville ou sur la côte.
Pourquoi ?
Il y a tout qui est en train de fermer en fait ici.
Un CDI, mais vous l'avez entendu, pas forcément l'envie de rester à Mourinx.
Ah oui, Stéphane Place, vous allez rester avec nous pendant ces 2 heures pour nous accompagner. Donc Stéphane Place, correspondant sud-ouest, ici là. Sébastien Krebs, on va vous retrouver en studio à Paris cette fois pour l'actualité ce soir. On va filer d'abord en Allemagne, c'est le titre de votre édition, où une voiture folle a foncé dans la foule tout à l'heure lors d'un carnaval.
Et ça s'est passé dans la même région, Canao, où les fusillades ont eu lieu la semaine dernière. Il y a plusieurs dizaines de blessés, notamment des enfants qui s'étaient rassemblés pour le premier jour de ce carnaval. Hélène Kohl, vous êtes en Allemagne, on n'en sait plus. Ce soir, on parle d'un acte qui serait bien volontaire.
Oui, la police le confirme. Le conducteur de cette Mercedes grise a foncé délibérément dans la foule. Il était 14h30 tout à l'heure. Et la fête, qui est un grand rendez-vous populaire ici, battait son plein dans cette petite ville d'environ 7000 habitants, Volksmarsen. La police était déjà sur place puisqu'elle sécurisait le parcours du défilé. Mais selon plusieurs témoins, le conducteur a forcé un barrage. Il aurait même accéléré en s'approchant du groupe de spectateurs. Selon un premier bilan officiel, au moins 10 personnes blessées, dont plusieurs grièvement. Au bout de 30 mètres, la voiture a a finalement arrêté et terminé sa course sur le trottoir et le conducteur a été immédiatement interpellé par la police. C'est un Allemand de 29 ans et la police n'a pas de précision pour l'instant sur ses motivations. On sait actuellement qu'il n'est pas en état d'être entendu par les enquêteurs. Le parquet fédéral a été saisi et toutes les festivités prévues aujourd'hui dans cette région de Hesse ont été annulé, car vous l'avez rappelé, on est à peu près à 200 km au nord de Hanau, la région de Hesse qui a été frappée la semaine dernière par un attentat d'extrême droite.
Hélène Kohl en direct, correspondante d'Europe 1 en Allemagne.
On en vient maintenant à l'épidémie de coronavirus et à cette brusque augmentation du nombre de cas hors de Chine.
Le virus touche désormais une trentaine de pays et l'OMS, pour la première fois, estime ce soir qu'il faut se préparer à une éventuelle pandémie, situation particulièrement préoccupante. En Italie, où le nombre de malades a explosé en quelques jours, 5 morts dans la région de Milan, 11 villes ont été confinées. C'est les cas de Codogno, où l'on vous retrouve, Romanoke, ville de 15 000 habitants, qui s'est figée.
Oui, à Codogno, les rideaux métalliques des commerces sont restés baissés aujourd'hui. Impossible par exemple de trouver des masques. Seul un petit supermarché a rouvert cet après-midi. Le magasin a été pris d'assaut. Seul endroit pour acheter de la nourriture. Mauro arrive à l'entrée essoufflé.
We don't know. When this situation,
je ne sais pas combien de temps le confinement va durer. Alors je préfère faire des provisions. D'habitude, on voit ça dans les films. Mais là, c'est vraiment dingue de voir Codogno dans une telle atmosphère.
In this situation. Une ville plongée dans le silence où l'on n'entend que les sirènes de la sécurité civile. À l'intérieur des camions, des agents protégés de la tête aux pieds. Même avec un masque, j'ai d'ailleurs du mal à aborder les habitants, méfiants. Ils s'interrogent sur ma présence malgré les barrages filtrants. Comment avez-vous fait pour rentrer? Peut-on sortir de la zone confinée? Andrea ne se fait pas d'illusions.
It's very anxious to stay. C'est vraiment angoissant de rester ici, sans aucune chance de sortir, sans liberté de mouvement. Et puis personne ne dit rien. Mais bon, on peut avoir le virus et si on sort, on peut infecter quelqu'un d'autre. Donc il vaut mieux qu'on reste ici.
La plupart des habitants n'ont d'ailleurs pas essayé de franchir ces barrages. C'est peine perdue, m'a confirmé une source proche de la mairie. Désormais, plus personne ne peut sortir.
Romanoke, envoyé spécial d'Europe 1 à Codogno en Italie.
Et ce soir, Rome propose de réunir l'ensemble des ministres de la Santé des pays voisins.
La piste d'un rétablissement des contrôles aux frontières est à ce stade écartée. Mais aujourd'hui, les passagers d'un bus en provenance d'Italie ont été maintenus confinés pendant plusieurs heures à Lyon. Le chauffeur toussait, il a été conduit à l'hôpital pour des tests. La France recommande par ailleurs aux personnes qui reviennent d'Italie du Nord d'éviter toute sortie non indispensable, de prendre sa température 2 fois par jour, de privilégier le télétravail et de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ou à la crèche. Enfin, l'inquiétude grandit aussi sur le plan économique. Les bourses mondiales ont dévissé. Aujourd'hui, la bourse de Paris a plongé de quasiment 4%, moins 4% aussi en Allemagne, moins 3% à Londres, à New York également. Les bourses en chute de 3%. Ce soir, on y reviendra dans le journal de 19h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h08. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et si l'épidémie gagnait la France, les autorités sont-elles prêtes? La question s'est invitée aujourd'hui dans la campagne des municipales à Paris.
Et c'est notre coup de fil du 18h. Bonsoir Emmanuel Grégoire.
Bonsoir.
Vous êtes le premier adjoint d'Anne Hidalgo et son directeur de campagne. Écoutez ce que disait la candidate En Marche, Agnès Buzyn, c'était ce matin sur Europe 1.
C'est là où il est très important d'anticiper. Il faut que l'ensemble des agents qui travaillent à la mairie de Paris, d'abord, soient préparés et formés de façon à
ne pas... Ils le sont ?
À mon avis, ils ne le sont pas aujourd'hui.
Ah bah, c'est inquiétant.
La question, il faut la poser à Madame Hidalgo.
Alors, je vous pose la question, Emmanuel Grégoire. Est-ce que la ville de Paris est prête?
Oui, la ville de Paris est prête. Alors, c'est toujours difficile d'être péremptoire dans de telles circonstances. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ministre a menti ce matin sur votre antenne. L'a-t-elle fait par omission? L'a-t-elle fait parce qu'elle a quitté ses fonctions de ministre, qu'elle est maintenant candidate? Mais depuis plusieurs semaines, nous avons des échanges réguliers avec la Direction Générale de la Santé, avec l'Agence Régionale d'Hospitalisation, l'Agence Régionale de la Santé, et également avec la ministre elle-même, puisque la maire a, fin janvier, saisi la ministre pour lui poser un certain nombre de questions sur les dispositifs à mettre en œuvre. Et que la ministre semble, l'ex-ministre semble oublier, mais qu'elle lui a répondu sur les mesures.
Oui, parce qu'Agnès Buzyn dit aussi qu'il n'y a eu aucun contact entre le ministère de la Santé et la ville de Paris.
Écoutez, comme je l'ai fait tout à l'heure en conférence de presse à la mairie, dans la disposition des médias, la réponse de la ministre datée du 12 février, c'est-à-dire il y a presque maintenant 15 jours, répondant à un certain nombre de questions, pas toutes, mais répondant à quelques questions que nous avons. La vérité, c'est que ce type d'événement relève d'abord de la compétence du ministère de la Santé, du gouvernement, mais qu'il est important que les mairies, dans ce qui relève de leurs compétences, soient prêtes également. Et nous avons, depuis plusieurs semaines, plusieurs sujets de vigilance. Donc la mairie organise...
Et sur la formation des agents, puisque c'est de ça dont il s'agissait ce matin, est-ce que les agents ont été formés ?
Alors, trois secteurs ont été particulièrement sensibilisés avec des rappels de consignes, etc. Mais il s'agit du domaine des affaires sanitaires, il s'agit de l'accueil de la petite enfance et de la direction des affaires scolaires pour lesquels on a rappelé les protocoles préventifs qui nous ont été d'ailleurs réindiqués par la direction générale de la santé. Donc la mairie a tout fait depuis plusieurs semaines pour appliquer les directives qui nous sont fournies par les autorités sanitaire et nous sommes en attente d'ajustements s'il devait y en avoir. Et la maire a eu ce matin même un échange avec le nouveau ministre de la Santé pour faire un point. Mais donc nous trouvons absolument incompréhensible, pour ne pas dire plus, les déclarations de la désormais candidate Agnès Buzyn.
Agnès Buzyn a menti, voilà ce que nous dit ce soir sur Europe 1 Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris. Merci.
Merci à
Bonne soirée à vous. Et Anne Hidalgo sera l'invitée de la matinale d'Europe 1, invitée de Sonia Mabrouk à 8h15 demain matin.
Europe 1.
Votre grand journal du soir en édition spéciale ce soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et oui, nous sommes en direct de Mourinx avec des habitants, des citoyens qui sont là et d'autres aussi qui sont venus assister à l'émission à la médiathèque en plein cœur de cette ville de Mourinx à 30 km de Pau. On va revenir à votre journal Sébastien Krebs à la une de l'actualité également. François Fillon face au juge, procès reporté en tout cas mercredi en raison de la grève des avocats.
Harvey Weinstein jugé coupable d'agression sexuelle et de viol à New York et puis dans ce contexte à quelques jours des Césars, les mots de l'actrice Adèle Haenel, distinguée Polanski, dit-elle, se serait crachée au visage des victimes.
Deux heures d'info. Pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h13 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Presque trois ans après le naufrage de sa campagne électorale, François Fillon avait rendez-vous au tribunal aujourd'hui.
Un procès pour le détournement de plus d'1 million d'euros d'argent public, l'emploi présumé fictif de son épouse Pénélope, mais l'audience a tourné court à cause de la grève des avocats. Il reprendra mercredi. Mais l'actualité judiciaire se joue surtout ce soir aux États-Unis. Après un mois de procès ultra médiatique, le producteur Harvey Weinstein est déclaré coupable d'agression sexuelle et de viol. Le verdict a été annoncé ce soir. Loubna Anaki, vous êtes sur place au Palais de Justice de New York.
Oui, le verdict est tombé il y a tout juste quelques minutes. Harvey Weinstein a été reconnu coupable de 2 chefs d'inculpation sur 5. Il est reconnu coupable de viol sur l'actrice Jessica Mann, coupable aussi d'agression sexuelle sur l'assistante de production Mimi Alemi. En revanche, il n'est pas reconnu coupable des circonstances aggravantes de comportement de prédateur. Ce sont ces charges-là qui impliquaient la prison à vie. Vu ce verdict, Harvey Weinstein devrait encourir une peine de 5 ans minimum, voire 25 ans de prison. Un verdict après un mois de procès et 5 jours de délibération. L'affaire Harvey Weinstein était devenue un symbole de ces hommes puissants tombés dans le sillage du mouvement MeToo. Ce soir, certaines de ces victimes présumées saluent le début d'une nouvelle ère de justice. Harvey Weinstein, lui, a toujours démenti toute agression sexuelle et maintenu qu'il s'agissait de relations consensuelles. Après ce procès new-yorkais, un autre procès l'attend désormais à Los Angeles.
Loubna Anaki, en direct du Palais de Justice de New York pour Europe 1.
Et les scandales sexuels qui frappent aussi le cinéma français. Voici maintenant des mots qui résonnent dans le monde entier véritablement à quelques jours de la cérémonie des Césars du cinéma chez nous.
Les mots de l'actrice Adèle Haenel qui, dans un entretien au New York Times, vise directement Roman Polanski. Roman Polanski nommé 12 fois pour le film J'accuse, malgré les accusations de viol qui planent contre lui. Mathieu Charrier, le sujet est particulièrement sensible. On se souvient qu'Adèle Haenel a elle-même accusé un autre réalisateur d'attouchement.
Oui Sébastien, il y a deux choses importantes, deux axes dans cette interview. D'abord effectivement, ces mots contre Roman Polanski. Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Façon de mettre au passage la pression sur les votants de l'Académie des Césars. Polanski est nommé 11 fois et les votes sont toujours en cours. D'ailleurs, Adèle Haenel enfonce le clou. À la sortie de J'accuse, on a entendu crier à la censure, mais il s'agit juste de choisir qui on veut regarder. Et puis dans cette même interview au New York Times, l'actrice estime que la France a raté le coche MeToo. Elle explique que c'est l'un des pays où le mouvement a été le plus suivi sur les médias sociaux, mais pas d'un point de vue politique et médiatique. On comprend que l'actrice regrette que la parole ne se soit pas plus libérée dans le sillage de ses accusations contre Christophe Ruggia. Selon elle, le système judiciaire français ne fait pas des violences faites aux femmes sa priorité.
Spécialiste cinéma d'Europe 1.
Et les Césars, c'est vendredi soir, évidemment. Merci beaucoup Sébastien Krebs. On va vous retrouver dans 15 minutes en direct pour un nouveau point sur l'info.